Réplique, y a-t-il un malheur français avec Gilles Finkelstein et Marcel Gauchet. Comme en témoigne la fortune des mots réactionnaires, fascistes, racistes, populistes, identitaires, le temps est revenu en France des anathèmes et des labels infamants. Comme l'écrit Marcel Gauchet dans son dernier livre « Comprendre le malheur français », il règne dans l'espace public un climat hystérique qui empêche d'y faire émerger des diagnostics partagés. Chacun peut le constater, il est impossible d'arriver sur quelque sujet que ce soit à des accords sur la réalité à partir desquels on pourrait définir des politiques éventuellement opposées, mais fondées sur une reconnaissance commune des termes des problèmes à résoudre. Au lieu de quoi, nous naviguons dans un brouillard épais à propos des constats sur lesquels il faudrait être d'accord pour être ensuite en désaccord sur les solutions. C'est un des éléments du blocage politique. J'ai invité aujourd'hui Marcel Gauchet et Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, qui publie « Piège d'identité, réflexion inquiète sur la gauche, la droite et la démocratie », afin de sortir du brouillard où nous sommes plongés et de contribuer, modestement, à débloquer les choses. Essayons donc de ne pas nous payer de mots et de poser le bon diagnostic. Où en est la France? Comment va-t-elle? Y a-t-il un mal particulier qui l'affecte? Et si oui, lequel? Marcel Gauchet.
Je crois que la France, en effet, est particulièrement mal en point à l'intérieur d'un malaise général. Elle n'est pas une exception. Je crois qu'il y a une situation d'ensemble qui touche au moins le monde occidental, mais à l'intérieur duquel elle se détache. Et c'est cela qu'il s'agit de comprendre. Le malaise occidental, il est assez simple. Recul de leadership à l'intérieur d'un monde globalisé et d'autre part, remise en question identitaire de ce que nous avons été, de la place que nous avons occupée, par une nouvelle situation qui redistribue complètement les cartes. On peut parler d'un séisme identitaire qui court la planète, car la globalisation, qui est devenue notre nouvelle condition, remet en question l'ensemble des traditions historiques sur lesquelles vivent les peuples. Et à l'intérieur de cela, la France a des raisons particulières de se sentir mal à l'aise dans ce monde globalisé. Pour deux raisons principales, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais on voit tout de suite ce qui l'affecte de front. D'abord, elle est prise à revers dans sa tradition universaliste. L'effet de la mise en commun globale, c'est de relativiser toutes les identités, toutes, même les plus puissantes. On le voit dans l'exemple américain, en ce moment, au cœur de l'actualité. Mais l'universalisme français n'a pas derrière lui la puissance américaine. Et du coup, ce rôle d'inventeur de pointe de la modernité que la France est traditionnellement attribuée, avec des éléments de vérité dans cette définition, est complètement battu en brèche. La France se croyait universelle, elle se découvre une petite province d'un monde où elle ne pèse pas grand-chose et où son expérience historique ne signifie plus beaucoup. Deuxième raison, elle est directement mise en question dans son modèle historique fondamental par le cours des choses qu'impose la globalisation. La France a été très à l'aise dans le monde de l'après-guerre, 1945-1975, le monde de l'après-guerre, où sa tradition historique était en phase avec les exigences du moment. Elle était l'État organisateur, l'État redistributeur, l'État planificateur. Tout cela consonnait parfaitement avec ce qu'avait été jusque-là le cours de notre histoire. Et la France a somme toute réussi une modernisation heureuse dans cette phase des Trente Glorieuses. Là, en revanche, tout ce qui devient la nouvelle loi du monde s'inscrit en faux contre ce qu'elle a toujours pratiqué. L'hégémonie passe de l'État organisateur au marché autorégulé. Le pilotage public est battu en brèche par la force des intérêts privés. Et on peut poursuivre la litanie. Toutes les solutions qui sont, au fond, le résumé de notre histoire, sont aujourd'hui contredites par ce qui est la nouvelle règle du jeu général. Dans ces conditions, faut-il s'étonner qu'il y ait un profond trouble français ? À ce trouble viennent se rajouter bien d'autres causes, naturellement. Non, on peut comprendre, je crois, en termes tout à fait rationnels et sans faire appel à des catégories bien inutiles qui n'appellent pas l'anathème, qu'il y a un malheur français tout à fait spécifique, aggravé par le fait que ce peuple politique a le sentiment de n'avoir plus de commande politique, n'a plus de prise politique sur son destin.
Gilles Wingenstein.
Alors, je prolonge ce que vient de dire Marcel Gauchet. Je crois que le point de départ, c'est que nous sommes les contemporains de mutations d'une rapidité et d'une ampleur sans doute sans précédent, qui en ont à la fois mondialisation, Marcel Gauchet l'a évoqué, et aussi numérisation du monde. Et ces deux phénomènes conjugués entraînent une redistribution mondiale des cartes qui, dans de nombreux pays, soulève des questions et un malaise. Mais ce malaise est peut-être plus profond encore en France qu'ailleurs, et c'est ce mystère-là qu'il faut essayer de percer. Et je crois que fondamentalement, ce nouveau monde vient ébranler les principaux piliers de notre modèle républicain. C'est vrai de l'État, la France plus qu'ailleurs, la nation française plus qu'ailleurs s'est construite par l'État, et l'État est attaqué par, dans sa conception traditionnelle, et attaqué à la fois par la mondialisation et par la numérisation qui viennent remettre en cause la manière dont il fonctionne. La politique, la France est plus qu'ailleurs un pays politique, et le primat du politique, ou en tout cas la manière dont le politique avait sa place jusqu'à présent, là aussi est profondément affecté, avec un espace du politique qui s'est diffracté et un pouvoir du politique qui s'est réduit. Et puis, un point que n'a pas évoqué Marcel Gauchet, je crois le troisième pilier, c'est celui de l'égalité. La France, pays de la passion de l'égalité, eh bien, cette nouvelle marche du monde vient remettre en cause aussi la manière dont on concevait les solidarités jusqu'à présent. Et donc, au bout du compte, c'est ce que Marcel Gauchet, ce par quoi Marcel Gauchet commençait, ce par quoi je finis, c'est l'universalisme, c'est-à-dire notre capacité à projeter notre modèle dans le monde, eh bien, quand on n'arrive plus à concevoir notre modèle pour nous-mêmes, on se retrouve démuni. Et je crois que ce sont ces éléments-là pris ensemble qui expliquent la spécificité du malheur français.
Vous dites cela, Gilles Finkelstein, mais vous intitulez votre livre « Piège d'identité ». Or, il me semble que l'identité, en l'occurrence, et là je rejoins, je crois poursuivre ce que disait Marcel Gauchet, et ce n'est pas ici, aujourd'hui, un piège, c'est une prise de conscience que les Français font presque malgré eux, qu'ils sont titulaires d'une identité précieuse, fragile, et périssable. Et je ne suis pas absolument sûr que les politiques, les responsables politiques, soient tout à fait à la hauteur du problème, dans la mesure où ils s'en tiennent à une vision économique du monde. Ils sont, et Marcel Gauchet le dit dans son livre, spontanément matérialistes. Les hommes se définissent avant tout par leurs intérêts. C'est ce principe, entre autres, qui a guidé Angela Merkel lorsqu'elle a décidé d'ouvrir ses portes aux migrants. Elle a pensé que il y avait un intérêt économique de l'Allemagne dans la mesure où ce pays souffre d'une baisse de la fécondité. Elle a raisonné dans les termes de la pensée calculante. Donc il y avait une alliance étrange d'ailleurs entre le calcul et le sentiment. Le sentiment, l'élan généreux et humanitaire. Mais un certain nombre d'événements nous ont rappelé que les individus ne sont pas des coquilles vides, ne sont pas des voyageurs sans bagages. Je pense évidemment à l'épisode de la Saint-Sylvestre à Cologne, qu'il y a quelque chose justement comme des cultures et des différences culturelles qui sont parfois insurmontables. Ce qui veut dire que la France et l'Europe en général sont renvoyées, comme malgré elles, à leur propre civilisation. Et les hommes politiques, eux, ont tendance à vouloir réduire justement la question culturelle, soit dans la question sociale, pour la gauche, soit dans la question économique, pour la droite. N'y a-t-il pas là un décalage préoccupant, Gilles Finkelstein, puis Marcel Rocher?
Peut-être vais-je vous surprendre, mais je suis assez largement d'accord avec ce que vous venez de dire, et j'essaye, dans mon essai, de dire que la gauche, notamment, qui a éludé pendant longtemps cette question de l'identité, a fait une erreur, et que c'est une question qui se pose partout, et qui doit être traitée. Pourquoi piège d'identité, alors? Parce que, dans la manière dont cette question a été posée dans l'espace public, et notamment dans le débat politique, c'est-à-dire réduisant souvent l'identité à une seule question qui est la religion, et à une seule religion qui est l'islam, exacerbant souvent cette question-là, l'instrumentalisant à des fins tactiques. Je crois qu'il y a là un piège, et c'est ça qui n'est pas l'objet de mon essai, mais qui est en tout cas son point d'arrivée. Piège, d'abord pour la démocratie, parce que je crois qu'il est beaucoup plus difficile de trouver des compromis sur les questions d'identité qui renvoient à ce que l'on est ou à ce que les autres pensent que vous êtes, que sur les questions d'égalité qui renvoient à ce que vous avez ou à ce que vous pensez ou ce que vous pouvez espérer avoir. Piège d'identité aussi parce que cette exacerbation de la question de l'identité dans notre société provoque une déformation de la perception même de la réalité. J'ai été très frappé de deux enquêtes qui illustraient cela. Vous aviez une grande enquête internationale où on posait les mêmes questions de connaissances dans une vingtaine de pays. Une des questions était: quel est, d'après vous, le pourcentage de musulmans dans la population de votre pays ? La France compte à peu près 8% de musulmans. Les Français étaient de très loin le peuple qui répondait de manière la plus éloignée de la réalité, 31% en moyenne. Et dans l'autre sens, lorsque on interrogeait les Français les plus modestes, les 30% de Français les plus modestes sur la place qu'ils occupaient dans l'échelle des revenus, 60% d'entre eux se situait dans le tiers intermédiaire ou dans le tiers supérieur. Et donc, d'un côté, on sous-estimait un problème, de l'autre côté, on surestimait l'autre. Et puis, j'ajoute un dernier élément, piège d'identité, parce que j'ai vu dans de nombreux pays fonctionner une démocratie avec pas seulement un débat structuré autour de l'identité, mais un vote structuré autour de l'identité. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que dans ces pays-là, la liberté effective de vote se trouve réduite à rien, que votre vote est entièrement conditionné par ici la région dans laquelle vous habitez, ailleurs la religion que vous pratiquez ou que vous êtes censé pratiquer, ailleurs encore l'ethnie, la tribu à laquelle vous appartenez. Et donc c'était ce pourquoi je pense qu'il faut traiter cette question-là, évidemment, mais faire attention dans la manière dont on l'aborde.
Marcel Gauchet.
Assurément, il faut faire attention à la manière dont on l'aborde parce que c'est d'abord la question la plus difficile qui se repose aujourd'hui dans des termes parfaitement inédits. Et pour reprendre l'exemple que donnait Gilles Finkelstein, dans les pays dont il parle, ces identités régionales, ces appartenances religieuses sont elles-mêmes ébranlées par une identité, par une remise en question d'une identité plus globale, qui est l'identité nationale. Donc la secousse identitaire est une déflagration générale. On l'observe partout de façon très différente, mais extrêmement reconnaissable. Le grand problème du discours politique, ce qui fait qu'il n'a plus de prise, où que ce soit d'ailleurs, parce qu'on voit bien que là, cette déprise du politique, elle est générale. Elle affecte les Français spécialement parce qu'ils avaient un surinvestissement dans la politique. Cette crise du politique est liée, en effet, au rétrécissement de son objet. L'économie, qui permet d'englober des choses assez différentes, car il y va aussi du droit, le langage technique qui règle les rapports sociaux, la technique, en fait, l'ensemble des discours abstraits universelles, qui répondent à des critères communs, sont devenues le seul discours public avouable. Alors que ce qui était, il n'y a pas si longtemps, au centre de du débat public, c'était précisément l'histoire. L'histoire d'un pays, l'histoire d'un continent, l'histoire d'une civilisation, et les inflexions qu'il s'agissait de lui apporter dans un sens ou dans un autre, dans un sens conservateur, dans un sens progressiste. Nous avons changé de terrain du débat public. Et le langage de la politique s'est technicisé, technocratisé, en abandonnant son ancrage historique. Et c'est cette question qui nous revient sous la forme du problème identitaire. Alors, comment le traiter, justement, je crois, en reconsidérant le lien à l'histoire, qui est la question clé de nos sociétés. Elles ont perdu leur ancrage dans leur propre histoire. C'est par ce biais que, d'ailleurs, la question de l'identité perd complètement cette dimension essentialiste, culturaliste, dont on nous rabâche la critique et qui n'a de prise là aussi sur rien. C'est effectivement un devenir, l'identité. Elle est insaisissable, on ne peut pas la fixer dans quelque chose qui s'arrêterait à un moment donné. C'est un héritage complexe qu'on découvre, Alain Finkielkraut le disait très bien, quand il est remis en question. On ne revendique pas une identité, en fait. Elle s'impose à vous. Vous découvrez, par exemple, dans le cas de l'universalisme français, que ce que nous sommes portés, nous, à croire universel, est en fait un idiome très particulier. C'est le choc de la contradiction qui révèle l'identité, bien plus qu'elle ne s'affirme. Et je dirais que les identités qu'évoquait Gilles Finkelkraut, des identités traditionnelles, dans des systèmes de partis fixés sur des identités régionales ou religieuses, puisque c'est essentiellement les deux critères qui président à ce genre de définition, ces identités-là, c'est des petites identités. Ce qui est remis en question aujourd'hui, ce sont des grandes identités. En fait, des identités qui s'ancrent très profondément dans un passé que nous connaissons mal, que nous comprenons mal et que nous devons redéfinir. C'est par la reconsidération de la place que nous occupons à l'intérieur d'un cadre beaucoup plus vaste, l'Europe, évidemment, pour les Européens, les Français en tout premier lieu, et au-delà, le cadre mondial, que nous pouvons véritablement prendre ce problème en essayant de le reconstruire comme un cadre de référence commun.
Oui, mais alors, nous devons reconstruire quelque chose, mais nous avons du mal aussi à penser ce qui nous arrive, tellement nous restons, en tout cas nos élites restent tributaires de ce que vous appelez, Marcel Gauchet, une vision économique du monde. Et là, je voudrais citer par exemple Abdennour Bidar, sa lettre ouverte au monde musulman. Il dit « Les intellectuels occidentaux ont tellement oublié ce qu'est la puissance de la religion, en bien et en mal, sur la vie et sur la mort, qu'ils lui disent, à lui Abdennour Bidar, le problème du monde musulman n'est pas l'islam, pas la religion, mais la politique, l'histoire, l'économie, et notamment bon, la relation dominant-dominé. » Et voici ce qu'écrit Bidar. Ils vivent dans des sociétés si sécularisées qu'ils ne se souviennent pas du tout que la religion peut être le cœur de réacteur d'une civilisation humaine. Or, voilà ce à quoi nous sommes, malgré nous, confrontés aujourd'hui. Alors, êtes-vous d'accord avec ce diagnostic, puisqu'il s'agit de poser un diagnostic avant peut-être d'établir une ordonnance? Et que faire pour répondre à un défi de ce type totalement inattendu? Gilles Finkelkraut.
Il y a une remarque là qui est très, très juste, et ce que souvent les Français ne mesurent pas, c'est que nous vivons dans une société sécularisée bien plus que dans le reste du monde. Il y a une spécificité française dans le rapport à la religion qui rend notre pays extrêmement singulier. Quand vous regardez dans toutes les grandes enquêtes internationales, ce qui caractérise la France, c'est le pourcentage absolument considérable, pratiquement les deux tiers des Français qui se déclarent soit athées, soit non religieux. Alors que dans l'immense majorité des pays, eh bien vous avez une immense majorité de croyants. Et donc, dans notre rapport à la religion, quand on essaie de comprendre ce qui se passe ailleurs, il y a cette difficulté d'une situation très singulière de notre pays. Et donc, ça, c'est un élément, je crois, qu'il faut avoir en tête. Après, il faut marcher sur ses deux pieds. C'est-à-dire que je partage l'idée que il y a un débat identitaire qui se pose dans de nombreux pays. Et encore une fois, je crois que la gauche, notamment, doit se saisir de cette question-là. Et il faut essayer de comprendre pourquoi elle ne l'a pas fait jusqu'à présent, ou elle l'a fait trop peu, ou elle a été mal à l'aise avec cette question, alors même que la gauche est née de l'idée de nation. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure que la gauche s'est appropriée la question sociale, la droite s'est appropriée la question nationale, et elle a eu une difficulté, une réserve à traiter cette question, craignant une diversion, redoutant sa propre division sur le sujet. Et je crois que c'est une erreur parce qu'il y a, d'abord cette question se pose, et puis parce qu'il y a un lien, et ce n'était pas nécessairement mon intuition au moment où j'ai commencé cet essai, il y a un lien étroit entre les questions d'identité et les questions d'égalité. Pour que l'égalité soit désirable, eh bien il faut avoir une identité partagée. Donc il faut traiter cette question-là, mais je partage l'idée qu'il y a une dérive technocratique du débat public autour notamment de l'économie, mais il ne faut pas en déduire que les questions économiques et les questions sociales, évidemment, ont disparu. Et donc je crois qu'il faut refuser cette hyméplégie et traiter les deux, ensemble.
Marcel Gauchet.
Il faut ajouter tout de suite que dans le cas précis, cette question est ravivée pour nous Français, mais pour les autres Européens, par la question européenne. La construction européenne s'est effectuée au fond en deux temps, pourrait-on dire. Dans un premier temps, la construction des États-Unis d'Europe, un modèle fédéral qui était un horizon, même s'il était éloigné. Donc, dépassement des États-nations existants, des 6 États d'origine, au profit d'un État-nation unitaire, mais un État-nation européen. Dans un deuxième temps, cette première mouture étant mise à l'épreuve des événements par une série d'élargissements en particulier, et puis les circonstances extérieures, la chute du mur, l'élargissement massif à l'Est, on arrive à une autre définition de l'Europe sous le signe du post-national, qui a été quand même un horizon idéologique qui, pendant quelques années, a présidé à l'esprit dans lequel on nous expliquait que nous étions une expérience d'avant-garde dans le monde. Et aujourd'hui, si cette question de l'identité nationale revient, c'est parce qu'il y a échec à l'échelle européenne de ce projet post-national qui se révèle une impasse et qui ramène fortement au premier plan la question des nations et de leur singularité. Qu'en fait, la construction européenne, loin de diluer, a plutôt renforcé, tout en la pacifiant. Il n'y a pas de rivalité, mais on voit bien que les nations d'Europe sont autant de variantes d'un modèle commun, mais des variantes très fortes, des variantes qui ont du sens, des variantes auxquelles leurs citoyens sont extrêmement attachés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en rivalité avec d'autres. C'est précisément le miracle européen, c'est d'avoir apaisé. Il n'y a pas de rivalité des modèles, mais il y a en revanche un ferme attachement des citoyens à ce cadre dans lequel ils sont. C'est cela aussi qu'il faut prendre en compte. La question de l'identité aujourd'hui pour les Européens, pour les Français tout particulièrement, se pose par rapport à la construction européenne qui demande, à mon sens, une redéfinition radicale de ses finalités et de son objet.
Oui, mais alors justement, la France a redécouvert qui se pensait comme universaliste, ce que son modèle avait de spécifique du fait des événements qu'elle a vécu, et notamment la laïcité. Mmh. Il existe une laïcité à la française, et les Français, semble-t-il, y tiennent. Mais c'est là qu'on trouve un problème assez paradoxal. C'est-à-dire, la laïcité, c'était la gauche, mais dans la mesure où elle peut apparaître aujourd'hui comme une formule identitaire, et qu'elle peut viser, semble, des populations démunies, les nouveaux damnés de la terre, une partie de la gauche en abandonne le principe, préconise une laïcité ouverte, ce qui fait que, et là je cite Jacques Julliard, sur fond de revendications islamistes identitaires, le principal critère de discrimination entre la gauche et la droite est en train de s'inverser de sens. Une grande partie de la droite s'y rallie, tandis qu'une notable partie de la gauche s'en éloigne sur la pointe des pieds. Si d'aventure vous vous faites traiter de laïcard aujourd'hui, soyez assurés que celui qui vous flétrit de cette étiquette pleufateuse n'est pas comme naguère de droite, mais bel et bien de gauche. Ce n'est plus Sarkozy qui, comme naguère, parlait de laïcité ouverte pour signifier, dans les faits, l'abandon du concept. C'est cette gauche mutante que l'on trouve aussi bien du côté de Terra Nova que de Mediapart. Et le nom de Terra Nova est très intéressant. C'est-à-dire, il s'agit de se projeter dans un monde à venir, une terre nouvelle, alors même, encore une fois, que face à l'Europe, face à la mondialisation, face aux nouveaux défis d'une civilisation différente, la France est un peu renvoyée à sa civilisation, à son héritage, et qu'un certain nombre de Français affirment y tenir plus que tout. Gilles Finkelstein.
Alors, je repars de ce que disait Marcel Gauchet sur l'Europe pour arriver à la laïcité. D'abord, il l'a évoqué d'un mot, mais j'insiste dessus, il y a un modèle commun européen. Et plus on se place loin, plus on regarde l'Europe, non pas en tant qu'Européen ou en tant que Français, mais à l'extérieur, et plus on est convaincu de ce qui constitue ce modèle européen, c'est-à-dire un mélange de démocratie politique, d'économie de marché régulée, de solidarité sociale et de diversité culturelle. Ce modèle-là est très spécifique à l'Europe, même si, je partage évidemment ce point de vue, il y a des variantes nationales et des variantes nationales qui sont importantes. Je ne suis pas sûr que le projet européen ait été à ce point le poste national. Quand je vois que Jacques Delors lui-même définissait le projet européen comme une fédération d'États-nations, on voit qu'il y a les deux dimensions, la dimension fédérale de mise en commun, de partage de souveraineté, et puis évidemment qui reste fondamentalement structurée autour des États-nations. La difficulté pour la France, c'est que on a cru ou on a voulu croire que l'Europe pouvait être une France en grand. Eh bien, c'était évidemment une illusion. Et l'Europe ne peut être qu'un compromis entre ces variantes nationales, a fortiori dans une Europe qui est élargie. Et notre modèle laïque, pour le coup, se trouve lui aussi confronté à d'autres approches très différentes dans d'autres pays. Alain Finkielkraut disait « les Français y tiennent ». Ce qui est fascinant avec la laïcité, c'est que c'est un des mots les plus consensuels.
Voilà.
Mais que son contenu est un des plus conflictuels. C'est-à-dire que personne ne met la même chose derrière, et on revient au diagnostic que formulait Marcel Gauchet au départ, c'est cette difficulté que nous avons à nous mettre d'accord sur le constat. Et je crois que le premier débat à avoir, au-delà des anathèmes sur la laïcité, c'est qu'est-ce que l'on entend par la laïcité aujourd'hui.
En tout cas, vous constatez bien que la gauche est divisé sur ce thème pour les raisons que j'ai dites. Il y a la laïcité telle que la défend Manuel Valls, un modèle, une laïcité intransigeante, et une laïcité plus accommodante, défendue notamment par Jean-Louis Bianco, qui, si vous voulez, met en garde sans cesse dans l'application de la laïcité contre les risques de la stigmatisation. Alors vous dites qu'en effet, la laïcité est l'objet de conflits, de débats très vifs, mais il me semble pourtant que dans l'opinion française, l'option défendue par Manuel Valls est très largement majoritaire. Et donc beaucoup de Français tiennent à ce modèle, mais quand bien même ils sont obligés de se rendre compte qu'il n'a plus la vocation universelle qu'il lui donnait auparavant, car il y a d'autres États séculiers en Occident qui appliquent une toute autre définition de la laïcité. Ce n'est que français, pour autant cela doit valoir en France. Telle est, me semble-t-il, l'opinion commune. Finkelstein, puis Marcel Gauchet.
Oui, juste d'un mot. La laïcité a ceci de précieux qu'elle est un bien commun. Et le problème, c'est quand elle divise, le problème n'est pas qu'elle divise la gauche. Le problème, c'est qu'elle divise et qu'elle enflamme notre pays. Et depuis maintenant de nombreuses années, et que se saisissant petit à petit d'objets, de petits débats, ça enflamme à chaque fois et ça traverse toutes les familles politiques, et non seulement toutes les familles politiques, mais toutes les centrales syndicales, tous les corps constitués sont traversés par cette question. Et par rapport à ce bien commun, la question est comment on recrée du commun. Et donc, ce que je crois indispensable, c'est de repartir de ce que sont les principes de base de la laïcité, de la loi de 1905, de ces deux principaux, de ces deux premiers articles, et de voir comment, dans la société d'aujourd'hui, ils s'appliquent.
Marcel Gauchet.
Ce sujet de la laïcité est l'exemple même, me semble-t-il, du problème qui appelle une démarche politique assez nouvelle. Pour reconsidérer la signification de ce dont il s'agit. Et là, je ne crois pas qu'on puisse s'en tenir à des principes abstraits. Il faut retrouver un fil historique pour comprendre ce qu'a été la laïcité et pour comprendre ce qui la met en difficulté aujourd'hui, ce qui fait le trouble autour de sa définition exacte. L'origine de la laïcité, c'est l'affrontement de la République avec l'Église catholique. Et elle représente un moment crucial de définition de la République qui n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Je crois qu'aucun pays n'a eu l'occasion d'aller aussi loin dans la définition de ce qu'est une politique séculière. Séparation de la République et des religions, ça veut dire la capacité de la République de définir l'ensemble des règles de la vie sociale indépendamment de tout point de vue religieux. Après, les religieux s'y insèrent à leur façon. À l'époque, l'Église catholique reste une puissance là réactionnaire pour un coup au sens exact du mot, c'est-à-dire anti-moderne, comme elle le dit elle-même. Ce qui s'est passé, c'est que le catholicisme a évolué lui-même considérablement au XXe siècle, que l'Église catholique s'est ralliée à la démocratie, que la religion chrétienne s'est globalement inscrite à l'intérieur du cadre démocratique. D'où pacification du problème, d'où oubli aussi de ce que voulait vraiment dire laïcité, puisque c'était devenu un objet consensuel. Là-dessus arrive une nouvelle religion qui n'était pas prévu dans le cadre, et une religion déconcertante au regard de nos repères chrétiens, et surtout nous, français catholiques, puisque c'est une religion sans autorité religieuse définissable, avec laquelle le compromis peut se négocier. C'est une religion qui consiste essentiellement, du point de vue de ses adeptes, en une série de pratiques qui nous déconcertent complètement et qui n'entrent pas dans le cadre de la laïcité. Exemple très simple. L'exigence des prières quotidiennes, qui sont l'une des observances de base de l'islam, qui vont poser, par exemple, le problème de salles de prière sur les lieux de travail. Ça, c'est une question à laquelle on n'avait absolument pas l'habitude de faire face avec les religions que nous connaissions. Donc, il y a un problème de connaissance, d'abord. Il y a un problème de réajustement de ce que peut vouloir dire laïcité au regard de cet nouvel objet auquel elle doit s'appliquer. Au lieu de faire ce travail, nous sommes enfermés dans une impasse dont il faut absolument sortir. L'impasse qui consiste d'un côté à une intransigeance de principe, mais dans le vide, puisqu'elle n'est pas en prise sur l'objet auquel elle prétend s'appliquer, et de l'autre, sur l'élan de cette pacification du problème, et sur l'élan, ajoutons-le, de l'ignorance du religieux comme une force véritable qui meut les sociétés, l'idée, l'islam c'est comme le reste, c'est une opinion parmi d'autres, pourquoi pas, ça n'a aucune importance, tolérons tout. On est dans un côté dans un tolérantisme absurde et de l'autre côté dans une intransigeance doctrinale qui n'est pas emprise sur son objet. D'où le mal, d'où le malaise, d'où le trouble. Il faut un travail politique collectif, par la conversation civique de reconstruction de ce que peut vouloir dire aujourd'hui laïcité.
Oui, alors nous aborderons d'autres thèmes, mais encore un mot sur celui-ci. Vous dites, Marcel Gauchet, dans votre livre, que le voile islamique est un signe affiché et revendiqué de non-partage des femmes, d'un refus du métissage. Or, aujourd'hui, il est défendu par certains au nom du métissage, qui est l'un des paradoxes de notre situation. Mais que faire face à ce séparatisme identitaire dont le voile n'est que l'une des manifestations? Et êtes-vous d'accord ou non, l'un et l'autre, et je le cite une dernière fois, avec Jacques Julliard, quand il écrit que la laïcité doit s'exercer aujourd'hui avec la même rigueur, enfin presque, envers l'islamisme qu'elle s'exerça jadis envers le catholicisme? Gilles Finkelstein.
Oui, oui. Absolument, évidemment oui. Cette question du voile est très intéressante parce que c'est à partir du voile que le débat sur l'identité a surgi dans notre pays. Et c'est cette question-là qui a enflammé pour la première fois, 1989, l'affaire du voile de cette jeune collégienne à Creil, et qui a traversé d'abord la gauche et d'abord qui a traversé le camp des laïcs. C'était ça l'élément nouveau. Le voile, donc, oui, il a été traité de manière législative, hein, notamment à l'école. Mais c'est pour ça qu'il faut, je partage ce que disait Marcel Gauchet, se saisir dans le débat public de cette question-là et le faire démocratiquement. On ne va pas nettoyer l'espace public de la religion. Et c'est vrai du voile comme des autres signes religieux. Et donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut essayer de retrouver.
Marcel Gauchet.
Alors, le problème du voile a cette complexité supplémentaire qu'il n'est pas à proprement... qu'il est un signe religieux, oui, certes, puisque les gens qui le revendiquent se revendiquent d'une religion. Mais en fait, dans l'aspect qu'il a pris à l'intérieur de nos sociétés en Europe, il a une signification qui dépasse de beaucoup sa signification religieuse d'origine. D'où l'extraordinaire porte-à-faux. C'est la question épineuse par excellence. Il faut évidemment pas réduire l'islam à la question du voile, mais il faut traiter la question de l'évolution de l'islam qui trouve à se représenter dans le voile. Oui, ça certainement, par une conversation publique, politique, démocratique, avec les musulmans. Peut-être par un travail de mise à nu, de mise à jour, de ce qui est signifié là et qui nous pose une question à tous.
Alors, vous l'avez dit, Marcel Gauchet, la France est confrontée à un certain nombre de défis. L'intégration, nous en avons parlé, mais aussi la globalisation, puisque l'Occident l'avait initié, cette globalisation, et les Occidentaux se rendent compte de plus en plus qu'ils sont les perdants de cette globalisation. Mais vous dites aussi, tout au long de votre livre, que les élites politiques ne sont pas à la hauteur de ce défi. Vous avez un chapitre très sévère avec ces élites. Que leur est-il arrivé? Pourquoi cet effondrement? Pourquoi cette crise? Marcel Gauchet.
Le problème des élites et de la coupure entre les élites et les peuples n'est pas propre à la France. Là aussi, il ne faut pas s'enfermer dans notre précaré. Il est assez général. Mais il a en France une particularité, pour deux raisons. C'est que historiquement, la France, pays de résistance à l'autorité, est en même temps un pays qui place une confiance tout à fait particulière, d'origine cléricale à mon sens, d'origine, c'est l'empreinte catholique fondamentalement, dans ses élites. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au fond, le bon moment français, le dernier bon moment français a été celui précisément de la technocratie triomphante. Des gens compétents, dévoués au bien public, qui travaillent pour le bien collectif. Ça allait très bien. Ce qui s'est passé dans la période récente, c'est que fondamentalement, à mes yeux, il y a des raisons annexes qui tiennent à l'évolution même de la globalisation. Fondamentalement, les élites françaises ont été victimes de l'universalisme qu'elles ont hérité. Elles n'ont spécialement pas voulu prendre en compte le problème français au profit de l'universalisme qui se matérialisait dans la globalisation. Universalisme économique, technique, scientifique. C'est très frappant de voir combien la distance s'est creusée spécialement entre l'idée d'un peuple de ploucs locaux et une élite qui, elle, joue dans la cour des grands à l'échelle globale. Ça, je crois que cette coupure est très spécifiquement française à ce degré, même si on la trouve un peu partout. Ajoutons un point qui nous ramène aux deux jambes qu'évoquait très justement Jean Wittgenstein, c'est que la mondialisation crée partout une situation où les élites globales bénéficient d'un double jeu entre leur ancrage national et la possibilité de jouer dans la cour globale. Alors que les peuples, eux, sont confinés dans leur territoire et c'est la source d'une inégalité qui va bien au-delà des simples inégalités matérielles. Il y a un double référentiel pour les uns, un seul pour les autres, qui est perdant.
Wittgenstein.
Alors, moi, le point de départ de ma réflexion, c'était une inquiétude, c'est le sous-titre d'ailleurs de l'essai, une inquiétude sur la démocratie elle-même dans les mutations que l'on évoque depuis le début de notre discussion. Inquiétude pour la démocratie, à la fois parce que l'idée même de la démocratie n'est plus autant une évidence qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou même peut-être qu'il y a 10 ans, et parce que la culture démocratique est de plus en plus attaquée. Cette coupure entre le peuple et les élites, Marcel Gauchet a raison de le souligner, mais il faut y insister, n'est pas une spécificité française, ce n'est même pas une spécificité des régimes démocratiques. C'est une coupure qui existe à peu près dans tous les pays du monde et qui est particulièrement vive. En ce moment, quand vous regardez ce qui se passe ailleurs, vous pouvez lire les primaires américaines, aussi bien du côté démocrate que du côté républicain, à l'aune de ce clivage entre le peuple et les élites. Quand vous regardez ce qui s'est passé au sein du Parti travailliste avec la victoire de Jeremy Corbyn, c'est une révolte populaire contre les élites bléristes. Et on peut faire le tour du monde. À chaque fois, les phénomènes sont très différents, mais c'est une logique assez proche qui est à l'œuvre. Je termine par le dernier point. Sur le diagnostic, Alain Finkielkraut disait tout à l'heure, un des effets de la globalisation a été que, contrairement à ce qu'était l'ambition initiale, les pays occidentaux sont les perdants. Je crois qu'il faut affiner le diagnostic au sens où il y a un déclassement relatif des pays occidentaux, parce que un des effets de la mondialisation a été une formidable émergence d'un certain nombre de pays, avec d'ailleurs des effets extraordinairement bénéfiques, la sortie de la pauvreté de centaines de millions de femmes et d'hommes dans le monde. Mais ça a produit une division interne dans chacun de nos pays, avec des perdants et des gagnants. Il n'y a pas que des perdants de la mondialisation. Il y a une France exposée à la mondialisation dans les grandes métropoles, dans les grandes entreprises, qui réussit, et qui réussit très bien, et qui vient relativiser ce malheur français. Et puis il y a une autre France, elle, qui décroche, et c'est celle-là qui fait reproche aux élites politiques de la situation dans laquelle elle se trouve.
Mais alors justement, Marcel Gauchet, ces élites, vous en faites comme une sorte d'avant-garde d'un processus général de désaffiliation des individus qui oublient qu'ils sont des citoyens et se construisent précisément en purs individus sans appartenance et sans obligation à l'égard de la collectivité. Mais précisément, vous dites que ce processus doit être compris comme le parachèvement de la sortie de la religion. La sortie de la structuration religieuse des sociétés. Alors vous nous expliquez pourquoi, et j'ai d'emblée quand même une question à vous poser. Vous voulez faire un bon diagnostic pour, au fond, établir une ordonnance, vous appelez à un sursaut, mais si vous nous dites par ailleurs que ce processus est irréversible, il relève de cette logique de l'histoire que vous interrogez depuis longtemps dans votre œuvre, eh bien, quelle solution, quel remède peut-on véritablement lui apporter ?
Je vous rassure tout de suite. Je crois que les deux plans ne s'accordent pas tout à fait linéairement. Ce processus de sortie de la religion ne représente pas une espèce de force aveugle qui dicterait sa loi. Et d'autant que il crée des contradictions énormes. Par exemple, entre le cadre politique, qui demeure plus que jamais l'État-nation, la forme politique dans laquelle s'incarne la sortie de la religion, c'est l'État-nation, dont tout montre la diffusion planétaire et l'enracinement, avec des difficultés locales qui peuvent être extrêmement grandes, mais qui sont fonction du fait qu'on va dans cette direction. Et puis, d'autre part, cette embardée momentanée qui nous met dans une situation de crise, au sens exact du mot, de contradiction exacerbée, entre, d'un côté, cette logique du cadre collectif, et de l'autre, logique de l'individualisation radicale qui fait entrer l'individualisme en tension avec l'appartenance politique. Mais c'est une contradiction en ceci que cet individualisme n'a de sens que porté par l'organisation collective qui l'a fabriqué, qui le permet. À un moment donné, donc, nous allons nous retrouver devant la nécessité de construire une sortie de crise, c'est-à-dire d'opérer une réarticulation de cette logique individuelle et de la logique collective sans laquelle elle n'a pas de sens. La folie de la mondialisation, la folie idéologique que suscite la mondialisation, c'est ce mirage d'un individu qui s'extrairait de tout cadre collectif et qui régnerait dans l'espace, dans l'apesanteur, dans l'espace global, sans support. Mais un individu, ça n'est construit qu'autour de supports qu'il trouve dans sa communauté d'appartenance.
Oui, mais en même temps, Marcel Gauchet, vos interlocuteurs, puisqu'il s'agit d'un livre de dialogue, Éric Conant et François Azouvi, vous dites vous posent cette question, il s'est passé quelque chose dans les élites, elles avaient un surmoi moral qui a subitement disparu. Et vous dites qu'à vos yeux, c'est l'ultime tournant théologico-politique de la modernité, c'est, je le disais tout à l'heure, le parachèvement du processus de sortie de la religion. Alors, ma question est celle-ci. En quoi l'individualisme radical relève-t-il de la sortie de la religion ? Et dans la mesure où nous ne reviendrons pas à une structuration religieuse de nos sociétés, n'a-t-il pas quelque chose d'absolument inévitable ? Parce que c'est une manière de dire, si les élites se concevaient en termes de service, c'est parce que il y avait encore quelque chose de religieux dans nos sociétés. Mais vous voyez bien que, disant cela, vous tenez en quelque sorte pour acquis le mouvement qui nous emporte.
Le mouvement qui nous emporte n'est pas linéaire. Il est fait de contradictions, et des contradictions appelées à se résoudre dans une certaine mesure. Il n'y a pas de synthèse finale, ça c'est clair. Ce qui se décompose se recompose sur un autre plan, et les moments de crise sont ceux où du divorce maximal entre des termes qui sont voués à retrouver un compromis négocié. Je crois que c'est le vrai de beaucoup d'autres choses dans ce monde. Il ne faut pas mésestimer la force du processus qui nous entraîne, mais il ne faut pas considérer ces expressions éventuellement pathologiques du moment pour sa vérité dernière, ce que je ne crois pas. Je crois que nous sommes dans une situation de crise très profonde, mais qui n'est pas le dernier mot de l'histoire, bien au contraire. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un inéluctable de ces formes pathologiques que revêt aujourd'hui l'individualisme.
Très bien, merci de cette précision. Alors, Gilles Finkelstein, j'aurais aussi une question à vous poser. La gauche aime parler au nom du peuple, mais aujourd'hui, elle a tendance à dénommer populisme tout ce qui, dans le peuple, lui déplaît. N'y a-t-il pas là quelque chose de contradictoire ? On aime le peuple, mais si le peuple se comporte mal, alors on l'attaque, on l'accuse, on l'incrimine et on pense même en quelque sorte à le dissoudre dans une nouvelle entité puisque c'était le projet de Terra Nova. Le peuple étant devenu réactionnaire, une nouvelle alliance doit surgir des jeunes, des femmes et des minorités. Je ne suis pas sûr que cette alliance soit promise à un brillant avenir, mais comment vous-même réagissez-vous à ce terme de populisme ? Gilles Finkelstein.
Populisme n'est plus un adjectif qualificatif, mais un adjectif disqualificatif. Parfois, à raison, je combats le terrorisme, je combats le populisme, et il y a des traits communs au populisme de droite et de gauche en France et ailleurs, un style, la violence du verbe, partout la recherche d'un bouc émissaire qui à lui seul explique les malheurs du peuple. Partout, la volonté de substituer au clivage gauche-droite un clivage peuple-élite. Et partout, aussi, une mythification du peuple, perçue comme étant toujours dans le vrai, dans le bon, dans le décent. Et donc, je crois qu'il faut, s'en méfier. Mais il faut, en même temps, et la gauche doit particulièrement veiller à ça, avoir ce que Pierre Rosanvallon appelle l'intelligence du populisme, c'est-à-dire considérer que c'est une question interne à la démocratie, et c'est pas une question externe, et c'est une question dans laquelle il faut traiter, il faut essayer de comprendre à la fois ce qu'est la réalité de la situation des milieux populaires, parce que quand on dit populisme, quand on dit peuple, on entend les employés, les ouvriers, c'est une partie du peuple, donc comprendre ce qu'est la réalité de leur situation, on l'a évoqué depuis tout à l'heure, et comprendre aussi ce qui est un des ressorts de la colère populiste, qui est cette déconnexion d'une partie des élites.
Et pour finir, Marcel Gauchet, reprenez-vous à votre compte ce concept négatif de populisme.
Je n'emploie ce concept qu'avec les plus grandes précautions. Il a son utilité parce qu'il désigne un type de comportement politique qui fait problème à tous les niveaux et dans toutes les familles politiques. Il y a un populisme de la gauche. Alors là, dans un certain style d'invocation du peuple qui relève d'une rhétorique populiste. Mais il faut savoir qu'en effet, il est destiné, en fait, à couvrir d'un voile ce qui fait question. Et ça, pour moi, c'est le contraire de ce qu'est la gauche. La gauche, c'est le parti de la vérité sur la société qu'on affronte sans phare et qu'on traite comme elle est.
Et c'est ce que nous avons essayé de faire, regarder la réalité en face. Merci Marcel Gauchet, je rappelle le titre de votre livre, « Comprendre le malheur français ». C'est une conversation écrite avec Éric Conant et François Azouvi, et le livre est publié chez Stock. Gilles Finkelstein, vous publiez « Piège d'identité, réflexions inquiètes sur la gauche, la droite et la démocratie » chez Fayard. Les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission elle-même est disponible. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La France, l'orthographe et l'école ». Mes invités seront Anne-Sophie Le Tac et Michel Dussault. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Martin Delafosse. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, en direct du Salon du Livre, au Moyen-Âge en quête du martyr, avec Isabelle Eulan-Donat.